Bonsoir. Province du Sud Kivu, au moins 50 creuseurs artisanaux se sont retrouvés ensevelis dans trois tunnels de mine d'or à Kamituga vendredi dernier à la suite d'éboulements de terre. Ces éboulements ont été provoqués par les pluies diluviennes qui se sont abattues sur cette région. Selon les autorités provinciales, 18 corps ont été sortis des décombres. Le maire de la ville a décrété deux jours de deuil et pendant ce temps, les recherches se poursuivent pour retrouver d'autres corps. Comment expliquer ce drame? Que faire pour sécuriser les creuseurs artisanaux afin d'éviter ce genre d'accident? C'est le thème de dialogue entre Congolais de ce lundi 14 septembre 2020. Et pour en parler, je reçois dans cette émission pour le débat Steve Mbikayi, ministre des Actions humanitaires et Solidarité nationale. Monsieur le ministre, bonsoir.
Bonsoir.
Faustin Katsanga, coordonnateur de la nouvelle société civile du Sud Kivu. Il est également coordonnateur du Centre de formation internationale en droits humains et développement. Monsieur Faustin Katsanga, bonsoir. Monsieur Faustin Katsanga, est-ce que vous êtes en ligne? Bonsoir. Je crois que nous avons perdu Monsieur Faustin Katsanga. La réalisation va essayer de le rappeler. Gabi Kouba, il est chroniqueur des matières premières. Gabi Kouba, bonsoir.
Ah, bonsoir, Madame Kelly.
Merci de nous suivre à Bukavu, dans la province du Sud Kivu, sur la 95.3. Et pour vous qui êtes à l'étranger, merci de nous rejoindre sur www.radio-okapi.net. Bienvenue à tous dans votre magazine.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiookapi.net.
Au Sud Kivu, les recherches se poursuivent pour retrouver les corps des creuseurs artisanaux ensevelis dans les décombres dans un puits minier à Kamituga. Seulement 18 corps sur la cinquantaine de disparus ont été retrouvés jusqu'à ce matin. Le gouvernement provincial a dépêché hier sur le lieu une délégation conduite par le ministre de la Santé. Une réunion de concertation a immédiatement été convoquée ce lundi avec toutes les forces vives de la société civile de Kamituga. On écoute le représentant de l'administrateur du territoire de Mwenga, l'inspecteur territorial chargé de l'agriculture, pêche et élevage, Kilongo Kabou, il est joint au téléphone par Jean Kassami.
Il y a déjà 18 corps retrouvés, mais les travaux continuent. Nous sommes avec la délégation venant de Bukavu et de la province. Ici, nous sommes maintenant à la réunion de constatation et d'évaluation des produits déjà donnés. Nous sommes maintenant avec la société civile, les membres de commission de réserve et le conseil de sécurité. Pour trouver le voie de moyens, comment est-ce qu'il faut procéder aux enterrements. La mairie a déjà préparé le cercueil. La province, on ne sait pas ce qu'ils ont apporté, mais on attend de terminer à dialoguer avec eux.
Steve Mbikayi, je rappelle que vous êtes ministre des Actions humanitaires et Solidarité nationale. Monsieur le ministre, comment vous réagissez face à ce drame?
Non, mais vous savez, je suis comme vous, comme tout le monde, hein, on est très très touché hein, par ce genre de perte. Hein, on est vraiment concerné par ça et nous sommes en train de nous préparer pour voir dans quelle mesure on peut rapidement aller sur place contribuer à la recherche de corps avec nos compatriotes qui sont là-bas. Mais aussi, comment est-ce qu'on peut organiser un deuil digne pour ces compatriotes. Mais je déplore, hein, parce que tout le temps, j'ai toujours dit qu'il faut que nous apprenions maintenant à respecter les normes dans notre pays. Les normes ne sont pas du tout respecter ce qui nous amène à ce genre de catastrophe, c'est bien dommage.
Mais qui doit faire respecter ces normes, monsieur le ministre?
Dans chaque secteur, il y a des normes, il y a des services techniques qui existent, qui doivent veiller à toutes ces normes là-bas. Et dans ces cas, j'ai pensé qu'il doit s'agir, bien sûr, des experts du ministère de Mines. Donc voilà, nous ne sommes là que pour constater les dégâts, pour intervenir, hein, mais il ne faut pas venir que guérir. Il faudrait aussi, quand il y a ce genre de catastrophe, qu'on puisse désigner responsable, qu'il soit sanctionné. Mais généralement, ben, ça passe comme ça, personne n'est responsable, personne n'est sanctionné, et les gens n'apprennent pas à respecter pas les textes et les normes qui régissent différents secteurs.
On peut responsabiliser le gouvernement d'être à la base de ce drame, parce que ces experts ne font pas respecter la loi ou les normes.
Dans tous les cas, c'est nous qui gérons la République, gérons le pays, c'est nous qui endossons. Parce que c'est nous qui devons, n'est-ce pas, mettre tout en œuvre pour que ces normes soient respectées. nous ne pouvons pas nous dérober de nos responsabilités. Chacun dans son secteur doit essayer de veiller, n'est-ce pas, d'abord d'avoir des personnes compétentes pour la tâche, mais aussi de contrôler au cas où il y a ces manquements pareils, dégager les responsabilités et puis sanctionner les personnes.
Alors, lorsque vous parlez des sanctions, il faut sanctionner les responsables. Qui doit sanctionner? C'est le gouvernement qui doit sanctionner. C'est pas la première fois. On a eu plusieurs drames comme ça dans le Lualaba, dans le Haut-Katanga. On promet des sanctions, des enquêtes, mais après, on oublie l'histoire. On n'en parle plus.
Ben, je pense que les collègues doivent chacun dans son secteur essayer de pouvoir veiller, hein, veiller à ça, parce que c'est déplorable qu'on puisse plusieurs fois avoir le même genre de problème, de drame, et qu'au finish, personne ne paye le frais.
Vous êtes membre du gouvernement, est-ce que vous n'en parlez pas dans vos conseils des ministres?
Eh ben, dans le conseil des ministres, bien sûr, nous traitons des dossiers qui sont apportés par différents chefs de secteur, n'est-ce pas? Et donc, chaque ministre est amplement responsable de son secteur. Mais il faut aussi avouer que ce n'est pas du jour au lendemain qu'on peut tout changer. Mais il faut commencer par quelque part. Dans un cas pareil, donc, il faut chercher d'abord qu'est-ce qui s'est passé réellement. À ce niveau-là, est-ce qu'il y a eu une négligence, est-ce qu'il y a eu une incompétence, qu'est-ce qu'il y a eu avant d'arriver à prendre ces sanctions-là?
Alors, la société civile du Sud Kivu demande aux autorités du pays de prendre leurs responsabilités au lieu de se limiter à récolter les taxes auprès des creuseurs, mais sans créer des conditions qui peuvent protéger ces creuseurs artisanaux.
Quand je parle de pouvoir équiper les gens, de pouvoir les contrôler, de pouvoir mettre les gens qui sont compétents dans tout ce qu'on paye, devra en principe servir à cela. Je suis tout à fait d'accord avec lui.
Oui, mais le problème c'est que ça ne change pas, monsieur le ministre. Ce n'est pas qu'aujourd'hui qu'on parle de ce genre de catastrophes. Pourquoi
et
ça
je
ne
suis
change
pas? Je ne suis pas. Moi, je suis ministre des actions humanitaires, c'est-à-dire je gère des conséquences de ce non-respect des normes dans nos secteurs. Écoutez, s'il faut aller en profondeur sur le plan technique et sur le plan du respect des textes, des normes, la technicité, l'équipement, je crois qu'en ce moment-là, il faudrait vous référer au ministère sectoriel.
Faustin Katanga, est-ce que vous êtes en ligne?
Je suis en ligne, madame.
Vous êtes coordonnateur de la nouvelle société civile du Sud Kivu, également coordonnateur du Centre de formation internationale en droits humains et développement. Comment vous expliquez ce drame, Faustin Katanga?
Oui, je voulais compléter la présentation. Je suis en même temps le vice-président provincial du cadre de négociation de la société civile et en même temps président à l'intérim parce que mon titulaire était élu coordonnateur national du cadre de négociation de la société civile. Merci, Pasteur Achoumbe.
Merci.
Alors, par rapport à votre préoccupation, madame, sincèrement, nous sommes très préoccupés par cette situation. Et malheureusement, ça nous arrive pendant que le contexte actuel est complexe. Mais nous, en tant que société civile, nous, en tant que population, nous nous retournons encore vers les gouvernants. Pourquoi? Parce que c'est eux qui doivent réglementer les choses dans le pays. C'est eux qui doivent prévenir ce qui nous est arrivé. Malheureusement, ils ne l'ont pas fait. C'est eux qui doivent donner de l'emploi à la pauvre population. Ils ne le font pas. Permettez-moi, madame, de vous dire que à Kamituga, la ville de Kamituga, est une ville où il y avait une importante société qui a construit la Belgique, qui a construit les bien des villes dans ce pays. Ce n'est pas monsieur le président du Sénat qui va me contredire parce qu'il est produit de Kamituga, de la Fomenki. En fait, c'était une ville ou une cité où il y avait une grande société qu'on appelait Fomenki, qui produisait de l'or, de l'étain et de cassitérite. Et après les événements tragiques des guerres, voilà, la population était abandonnée à son triste sort. On va vivre l'avènement de Banro qui va commencer les prospections qui sont interminables. Et on va apprendre, on va vivre l'avènement de Somico qui ne s'installe pas, qui n'est pratiquement fait encore rien. Et voilà, la population se retrouve sur ce drame aujourd'hui parce qu'il n'y a pas d'encadrement, parce qu'il y a malheureusement une action de l'État et qui nous amène au drame, madame.
Donc pour vous, le responsable de ces drames, c'est l'État congolais?
Absolument, absolument.
Mais...
C'est l'État qui doit donner de l'emploi à la population. C'est l'État qui doit interdire et insister sur les interdictions. C'est
L'État a interdit, mais la population n'a pas suivi les règles ou les normes établies par la loi.
Mais madame, vous savez que l'État a ses services qu'on appelle, avant on appelait ses SCAM, aujourd'hui c'est MAP. Ça, quel rôle, madame? Ça, le rôle d'accompagner les artisanaux? Est-ce que ce rôle est correctement joué?
Comment vous répondez à cette question?
Je dirais non. Non, parce que les creuseurs paient les taxes. Mais à contrepartie, ce sont les morts que nous avons aujourd'hui. Et les morts combien? Ce n'est pas seulement les 18 qu'on a déjà retrouvés. Selon le rapport, nous, parmi les deux, trois puits là-bas, il y a deux puits où la liste de ceux qui étaient dans le premier puits, le puits du fait M. Kubo, il y avait 47 personnes. L'autre, là, puits de l'autre côté de Kitemba, il y avait 27 personnes. Et c'est là, hormis ceux qui viennent pour transporter le butin ou les pierres, hormis ceux-là qui viennent pour demander, pour quémander. Et donc, c'est une situation grammatique, une grave, qui devrait interpeller le gouvernement au plus haut sommet. Et bien, mais nous constatons que ce sont des blablas que nos dirigeants voudraient bien nous faire. Et c'est inacceptable, ça, madame. Ce sont les vies humaines qui sont perdues. C'est l'avenir d'une ville, messieurs et dames. Et donc, moi, je pense que cette situation devrait interpeller l'État, devrait interpeller le ministre national des Mines, devrait interpeller le chef du gouvernement, devrait interpeller le chef de l'État. Nous, on a souvent dans d'autres pays, quand il y a un seul mort, les chefs d'État suspendent les sommets et ils reviennent au chevet des victimes. Mais pour nous, qu'est-ce qu'il y a eu? Pas même l'arrivée du gouverneur, la délégation du gouverneur est arrivée 48, 24 heures après, et conduite par qui? Seulement deux ministres, évidemment, avec les représentants des membres du bureau, notamment le vice-président de l'Assemblée provinciale et le questeur et trois autres députés provinciaux. Dieu merci, comme la volonté est affichée par son excellence M. Steve Mika, avec qui nous débattons aujourd'hui, qui est disponible pour s'y rendre. Mais qu'on lui donne les moyens pour qu'il s'y rende. Et il n'y a pas que lui. Nous souhaiterions que le ministre des Mines soit aussi là-bas, qu'il aille constater les désordres. Nous souhaiterions même le ministre des Travaux Publics s'y rende, pour qu'il se rende compte de l'état de la route de cette ville qui alimente toute la province du Sud Kivu. Les recettes qui viennent du territoire de Mwenga et de la ville de Kabitouga sont énormes, madame. Nous ne méritons pas cette façon d'être traité.
Gabi Kouba, vous êtes chroniqueur des matières premières. Et est-ce qu'on peut parler des faillites de l'État congolais dans l'accompagnement des creuseurs artisanaux?
Oui, réellement, madame, je peux dire qu'il y a faillite de l'État. Vous avez parfaitement raison. Quelqu'un l'a dit, la mine de Kamituga, c'est une mine qui appartenait à la grande compagnie à l'époque, la Somiti. Et l'État avait des parts dans son métier, et quand la Somiti est tombée en faillite, les Belges et les Allemands se sont retirés, l'État était dans l'incapacité de gérer la mine, et puis toutes les mines du Grand Kivu qui appartenaient à la Somiti à l'époque ont été abandonnées. Actuellement, c'est la Sakima, et puis une compagnie canadienne, Bandro Corporation, est tombée dans ces mines. Malheureusement, Bandro a connu des problèmes, et puis l'entreprise a déclaré faillite depuis quelques années. D'ailleurs, chassée, elle n'est plus listée dans la bourse de Toronto au Canada. Le gouvernement canadien ne reconnaît plus. Et le gouvernement congolais n'est même pas au courant que la mine de Bandro est une entreprise en faillite qui n'est plus listée à la bourse de Toronto. Donc, les creuseurs que vous voyez aujourd'hui qui s'agglutinent autour de ces mines-là, c'est une activité de survie en réalité. Parce qu'il n'y a pas d'emploi, il n'y a pas d'activité industrielle. Alors, les gens, pour survivre, ils doivent se livrer à l'exploitation minière artisanale. Par ailleurs, encouragé par le gouvernement, à travers le SAIMAP, le service d'encadrement de l'artisanat minier, qui ne fait que vendre la carte d'exploitant artisanal, mais qui n'encadre pas en réalité les creuseurs. Il faut voir seulement les conditions dans lesquelles ils travaillent. Vous allez voir que les conditions sont les mêmes, que ce soit au Katanga, dans la filière du cuivre et du cobalt, que ce soit dans les diamants avec les grands Kasaï, que ce soit dans l'or avec les grands Kivu, les Katanga et l'Est des provinces orientales. Donc les problèmes sont toujours les mêmes. Alors quand Bandro est parti, maintenant les creuseurs artisanaux, d'ailleurs même quand Bandro était là, il y avait toujours des tensions. Vous suiviez à l'époque que Bandro était parfois à couteau tiré avec les creuseurs artisanaux qui exploitaient certaines mines qu'on avait délocalisées. Et le code minier a prévu même la création des EA. Les EA sont des zones d'exploitation minière artisanale. Mais le problème est que quand on délocalise les creuseurs, aucune recherche n'a été menée par tous les services de l'État, y compris les cadastres miniers, pour aller localiser ou relocaliser les creuseurs qui doivent exploiter d'autres sites, soi-disant des zones d'exploitation artisanale et ces sites sont, ne sont pas suffisamment minéralisés. La conséquence est que les trésors artisanaux ont tendance à revenir sur les sites d'exploitation industrielle et ces drames, vous le voyez, vous le remarquez de temps en temps, on assiste à ce genre de drames au Katanga. Non seulement cela, mais les moyens également qu'utilisent les creuseurs artisanaux, ce sont des moyens exclusivement rudimentaires avec la méthode L, L comme lettre L pour l'exploitation qu'utilisent les creuseurs, et vous avez également la méthode entonnoir. Donc ce sont des méthodes qui provoquent souvent des dégâts, donc vous avez des éboulements de terre, parce que lorsqu'on exploite une mine sans faire la découverture, on court beaucoup de risques, raison pour laquelle on assiste à ces genres de dégâts de temps en temps. Donc l'État est réellement responsable de ce qui se passe. Une activité de survie. Oui, madame.
Pourquoi, selon vous, ce manque d'accompagnement par le gouvernement? Qu'est-ce qui expliquerait cela?
Le manque d'accompagnement par le gouvernement, lorsque vous regardez le service qui est habilité à encadrer les trésors artisanaux, le Saïmatondi, regroupez-vous en coopérative. Mais ça va demander, parce que c'est seulement, non seulement l'exploitation minière artisanale, mais on parle aussi de l'exploitation minière à petite échelle. Cela veut dire quoi? L'État pouvait accompagner des coopératives, et regrouper les creuseurs artisanaux, et faire en sorte que ces coopératives obtiennent des crédits auprès des banques pour avoir des moyens pour l'exploitation de la petite mine et des mines à petite échelle. L'État ne fait aucun travail là-dessus. Alors, ce qui fait que les creuseurs eux-mêmes sont livrés à une activité de survie et personne ne les encadre. Quand vous observez la situation dans l'Est Katanga, tout comme dans les Grands Kivu et dans la province orientale, ainsi qu'au Kasaï, qu'est-ce que l'État fait? Quel est le rôle? On s'interroge réellement sur le travail que doit faire le SAIMAT. Le SAIMAT, c'est juste un service qui est là, juste pour collecter des taxes auprès des creuseurs artisanaux, mais en contrepartie. Or, la taxe a une contrepartie. Il n'y a pas une contrepartie d'un service rendu à ces creuseurs. Donc, ce qui fait que les creuseurs sont abandonnés, alors que ce sont, et ces gens de dégâts, je vous dis que sans être un prophète de malheur, tant que le désordre et la désorganisation vont continuer à régner dans les secteurs miniers, et vous allez voir que la série va continuer. Et non seulement cela, madame, vous avez même des responsables de l'État qui sont des propriétaires de coopératives. Ce qui se passe aujourd'hui à Damituga est assez révélateur. Rappelez-vous qu'il y a quelques années, dans le territoire de Massissi, il y a toujours des tensions entre une société, une compagnie censée être minière, une compagnie minière, mais qui achète presque la production artisanale. Alors, je n'arrive pas à établir des limites entre une société industrielle qui est censée déployer un outil industriel pour la production minière importante et qui achète la production artisanale et que l'on qualifie cette société d'une société industrielle. C'est une aberration de la part du gouvernement congolais. Donc il faut mettre un terme. Tant qu'on ne mettra pas un terme à ce genre de choses, je crois que la série va continuer. Et même quand le gouvernement, Madame Kelly, le gouvernement encourage l'exploitation artisanale, c'est une activité de survie parce qu'il n'y a pas d'industrie. Je ne connais pas un seul pays au monde qui a développé le secteur minier avec l'exploitation artisanale. Ça n'existe pas. Aucun pays ne peut réussir son secteur minier avec une exploitation artisanale. Donc l'exploitation minière, c'est une affaire des industries. Ce sont des investissements lourds. Tant qu'on sera dans cette logique de survie, alors les dégâts vont continuer à frapper les creuseurs.
Merci Gabi Kouba, les auditeurs sont nombreux à réagir. On va prendre pour vous, monsieur le ministre, cette réaction qui nous vient de Mbandaka.
Edmond Bokolo depuis Mbandaka, de la province de l'Équateur. Le gouvernement de la République démocratique du Congo, à travers son ministère des Mines, est inefficace pour bien réguler ce secteur de risque. Il est inadmissible dans un pays comme le nôtre que le creuseur artisanaux ne soit pas encadré par l'État. Il est question pour ce dernier de bien réguler les secteurs en ayant des experts qui auront pour mission d'étudier les endroits qui doivent être exploités et qui ne constituent pas un danger pour la population, mieux le creuseur. Ces incidents démontrent à suffisance que le gouvernement central, à travers ses services provinciaux, ainsi que le gouvernement provincial, sont complices dans l'exploitation artisanale des mines.
Monsieur le ministre.
Merci beaucoup, madame. Je pense que si vous avez suivi l'intervention, toutes les interventions, vous allez comprendre que vous devez plutôt inviter mon collègue de mine, parce qu'il y a des aspects techniques et d'organisation que lui sait peut maîtriser et peut répondre. Et comme je vous dis au départ que moi je m'occupe plutôt des conséquences.
On ne refuse pas, mais c'est le gouvernement tout entier. C'est le gouvernement tout entier qui est pointé du doigt.
Je vais vous dire, parce que je vais aussi demander qu'on corrige. On ne peut pas dire qu'il y a faillite de l'État et tout ça. Dans tous les pays, on peut trouver des dents pareilles, hein, des accidents peuvent arriver. C'est pas pour me dérober. C'est vrai que nous devons faire un effort pour améliorer. Mais on ne peut pas quand même dire que donc il y a faillite de l'État. Et là, je suis pas d'accord. Et comme j'ai dit, on ne peut pas tout faire en un jour. Je suis bien conscient que mon collègue de mine doit être en train de s'y employer parce que, déjà au conseil, il a déjà présenté quelques plans, n'est-ce pas, d'action par rapport à cette situation, notamment dans l'Olaba et ailleurs. Et je ne serai pas vraiment bien outillé pour entrer en profondeur sur le plan technique. Hein. Je voudrais plutôt intervenir sur les aspects qui relèvent de mes compétences.
Parlons des aspects qui relèvent de vos compétences, monsieur le ministre. C'est depuis vendredi que ce drame est arrivé. Nous sommes lundi. Aucun membre du gouvernement central n'est encore allé sur le lieu du drame. Vous avez suivi Faustin Katanga qui a dénoncé le fait que c'est à peine deux ministres qui sont allés aujourd'hui sur le lieu du drame pour s'enquérir un peu de la situation.
L'État est indivisible. Quand quelque chose arrive quelque part, quand il y a un chef de secteur qui intervient, soit dans un territoire, un gouverneur, c'est l'État. Donc, comme ils sont plus proches de la base, quand ils interviennent, c'est l'État. Entre-temps, nous, au niveau national, on a tendance à peut-être y aller, comme j'ai dit depuis hier, que je pourrais éventuellement me rendre sur place. Ce matin, j'ai échangé avec le chef du gouvernement autour de la question. Il m'a donné une directive, je suis en train de suivre pour le moment, afin que j'aie les moyens nécessaires pour qu'éventuellement demain, j'aille sur place pour contribuer à la recherche des corps. Donc nous sommes en train de faire des marches par rapport à ça.
Et cette contribution sera de quelle nature?
Non, comme je vous ai dit, la première des choses, c'est de chercher d'abord à voir les corps, savoir ce qui a fait le gouvernement provincial. Et puis faire le reste, c'est-à-dire contribuer à voir les corps, à les inhumer avec dignité, et, mais aussi à assister les familles qui sont éprouvées.
Faustin Katanga, il y a Idi Alex qui nous écrit depuis Kamituga. L'exploitation artisanale dans la ville de Kamituga ne respecte pas les normes telles qu'énumérées dans le code minier. Ces puits d'or mesurant chacun plus de 30 mètres alors que la loi prévoit 30 mètres. Ce qui explique que les responsables des services des mines ne font pas bien leur travail. Ils se contentent de percevoir les taxes au lieu d'appliquer la loi. Ainsi, pour prévenir, le code minier qui souffre d'application dans la ville de Kamituga doit être vulgarisé et appliqué dans son intégralité. Il répond déjà à la deuxième question de notre émission de ce soir. Qu'est-ce qu'il faut faire pour sécuriser les trésors artisanaux?
En fait, madame, merci encore pour cet temps de prise de parole. Je salue l'honnêteté intellectuelle de son excellence, monsieur le ministre des Affaires humanitaires. Mais nous sommes la population. Nous sommes les cadres de construction de la société civile, nous sommes la nouvelle société civile congolaise, nous sommes les défenseurs des droits de l'homme. Tant qu'il y a mort d'homme, nous devons nous tourner vers les gouvernants qui doivent résoudre nos problèmes. Tant qu'il y a chômage, tant qu'il y a, désorganisation d'un secteur, nous devons nous tourner vers les décideurs pour venir organiser. Et vous vous rappellerez, madame, j'ai dit tantôt que la ville de Kamituga là-bas, l'or qui provient de la ville de Kamituga, est orienté vers d'autres pays, vers le Burundi par exemple, vers le Rwanda par exemple. Et pourtant, toutes ces richesses-là devraient être bien capitalisées par notre gouvernement pour nous permettre d'avoir le budget conséquent. Nous sommes un grand pays, madame. Est-ce que nous devons continuer à subir les conséquences de la mauvaise gestion, par exemple, ou de la mauvaise gouvernance? Pas du tout. Par rapport à votre préoccupation, madame, certes, il y a des services. C'est pourquoi j'ai insisté, il faudrait que le ministre de Mines aussi soit parti de la délégation pour qu'il aille constater les désordres qui règnent là-bas sur le terrain. Les creuseurs d'or là-bas, les artisanaux, ils souffrent de multiples maux. Madame, où est-ce que vous savez qu'il y a des puits d'or qui sont ravis par les agents de l'État là-bas? Quand il y a une échantillon, quand il y a beaucoup d'or, ils ravissent. Nous avons eu à accompagner beaucoup de victimes. Ils ont fait des dépenses énormes, mais quand ils arrivent là où il y a de l'or, et maintenant, ce sont les autorités qui s'interposent. Ils ont fait ce qu'ils veulent et la pauvre population, la pauvre victime, ne va se retrouver derrière pendant qu'il a engagé beaucoup de dépenses.
Monsieur Fossé, est-ce qu'on peut dire que ce désordre est entretenu?
Si nous suivons bien les choses, nous pensons que c'est entretenu. C'est pourquoi nous exigeons l'arrivée du ministre des Mines pour qu'il constate ce qui se passe là-bas, pour qu'il s'entretienne avec les collègues qui sont localement sur le terrain, pour qu'il palpe quand même les réalités du terrain. Certes, ils vont nous dire non, il n'y a pas la route, mais la route, il y a le fonder. Nous avons suivi le projet de 100 jours ici, il y a eu des 20 millions de tournements de fonder. Pendant que les routes qui devraient bénéficier de ces fonds, les gens continuent à couvrir dans la misère. Vous voyez, madame le journaliste, donc, nous pensons que la présence d'autorités locales, nationales sur le lieu, est très importante parce que ça va permettre de réguler et d'accentuer le suivi et de trouver une solution en fait au problème de la population. Mais aussi, nous souhaiterions, je vous ai dit tantôt que le président du Sénat actuel, moi en tant que petit, je l'avais vu à Kamitouga comme agent cadre de la Somenki. Il est aujourd'hui le président du Sénat, il est un homme politique aujourd'hui. C'était le fruit de là. Pourquoi ne pas à permettre l'exploitation industrielle de l'or pour que le pays en juge et qu'on trouve, qu'on ait demain, après demain, un gros budget. Pourquoi? À qui profite ce flou? C'est ce que nous nous posons comme question. Nous souhaiterions, nous, populations, que les gouvernants prennent leurs responsabilités en main et ne pas sacrifier la population.
Gabi Kouba, il y a Jean-Claude Mouambo depuis Bounia dans la province de l'Ituri qui pense que ces drames se font suite à l'amateurisme des autorités d'une part et la cupidité des creuseurs d'autre part. Ces derniers négligent quelques détails pendant l'exécution de leur boulot, oubliant que c'est leur vie qui est en danger. L'irresponsabilité et l'amateurisme de notre État, celui-ci, au lieu d'inspecter ces tombeaux ou trous pour mettre la vie des trésors en sécurité, il se contente de la perception de taxes tirées, son profit. Solution, ce secteur doit désormais être assaini et régi par des droits et devoirs à l'égard des responsables des carrières minières. Et une inspection des routines doit chaque jour passer ou carrément d'arrêter cette pratique artisanale en remettant toutes les carrières aux sociétés privées. Ces dernières seront chargées d'embaucher les creuseurs en leur octroyant des contrats. Les risques seront couverts par ces entreprises minières. Gabi Kouba, qu'est-ce qu'il faut faire pour sécuriser les creuseurs artisanaux afin d'éviter ce genre d'accident?
Oui, c'est vrai que l'auditeur de Bougain qui appelle, bon, je lui dis sincèrement merci parce qu'il connaît également ce genre de drame comme il est dans une province minière. L'exploitation de l'or a aussi lieu dans cette province, en Ituri particulièrement, précisément. Je suis d'accord avec lui. Alors, pour sécuriser les creuseurs artisanaux, d'abord, l'absence des industries minières, des entreprises minières, pose énormément de problèmes. Et même s'il y avait des entreprises minières, c'est un domaine qui demande de la professionnalisation, c'est un domaine qui exige l'expertise. Donc, les entreprises minières ne vont pas embaucher tous les creuseurs, et surtout ceux qui ne sont pas qualifiés. C'est vrai que parmi eux, il y a aussi des gens qualifiés. Je peux prendre l'exemple du Katanga ou l'exemple du Kasai, où vous avez même les anciens de la Gécamine, les anciens de la Miba, mais à cause des problèmes qu'ont connu leurs entreprises, donc ils se sont livrés à l'exploitation minière artisanale. Donc aujourd'hui, même si on crée des entreprises, donc ces entreprises-là ne vont pas embaucher tout le monde. Ces entreprises ne peuvent qu'embaucher ceux qui sont qualifiés parce que les industries aujourd'hui, avec l'automatisation des machines, tout ça avec l'informatisation, tout cela exige des compétences énormes et exige beaucoup d'expertise. Quand cela ne tienne, s'il y a, par exemple, des entreprises minières, ces entreprises-là, à travers les sous-traitants, il y a aussi d'autres tâches, même pour les gens qui ne sont pas qualifiés, mais ça peut absorber un taux important des creuseurs artisanaux et diminuer le chômage à travers les activités des sous-traitants, parce que toutes les tâches dans le secteur minier n'exigent pas qu'on ait seulement des diplômes d'ingénieur ou des diplômes de géologue. Donc il y a des tâches aussi pour ceux qu'on appelle communément les petits travaux, donc ils peuvent exécuter ce genre de travaux. Mais tant que cela n'aura pas lieu, on n'aura pas résolu les problèmes. J'ai entendu beaucoup de réactions par rapport à l'actuel ministre des Mines. Il n'y a pas mieux placé que lui pour connaître les problèmes de l'exploitation artisanale, parce qu'il a été ministre provincial du Katanga, et dans le Katanga, ce genre de problèmes sont récurrents et réguliers, le ministre le sait. Mais il se pose aussi un problème, l'arrivée par exemple des Asiatiques, des Libanais, des Chinois, des Indiens, des Népalais, des Pakistanais. Rappelez-vous que même dans le Kivu, à une certaine période, on a dû démanteler même un réseau des Chinois à l'arrivée au Lundi avec des drogues. Alors que ce sont des expatriés qui devraient se conformer à la loi avec des investissements et l'activité artisanale, c'est une activité essentiellement congolaise. Aujourd'hui, vous avez parfois des Chinois, et des Libanais et des Indiens qui sont dans des mines de réalisation artisanale. Et ce sont eux qui achètent l'exploitation artisanale sous le regard impuissant de nos autorités, qui encouragent même ces genres de pratiques. Donc vous allez constater que dans les mines, on sait plus faire la distinction entre les expatriés et les nationaux qui sont des creuseurs artisanaux. L'exemple le plus éloquent, c'est celui de la province de Lualaba. Dans les mines de Kasulu, dans le site artisanal de Kasulu, où vous allez trouver des Chinois, des Indiens, des Népalais, sur la route de Kasenga. Et c'est un peu partout, dans toutes les provinces de la RDC, où vous allez trouver ces expatriés en connivence avec des creuseurs artisanaux. Qu'est-ce que les creuseurs artisanaux gagnent réellement? Rien du tout. Et l'État.
On a un petit souci. Avec votre ligne téléphonique, Gabi Kouba. Essayez de bouger un peu pour l'améliorer.
Ok, ça va. J'ai bougé, madame, je pense que ça va. Je disais que la présence des expatriés pose énormément de problèmes de coordination. Et là, c'est la faiblesse des services de l'État. Parce que quand vous regardez même les agents de l'État qui sont censés faire le travail, le recensement, on vous dit, je vois actuellement le ministre des Mines qui a lancé la campagne pour la vulgarisation du code minier. Mais pourquoi le ministre ne parle jamais de l'activité artisanale? Parce qu'on vous dit, au-delà d'une certaine profondeur, parce que vous exploitez avec des moyens rudimentaires, vous ne pouvez pas aller au-delà de 15 mètres. Mais avec le système d'entonnoir ou le système L, il y a même des creuseurs artisanaux qui vont largement au-delà. Et même quand ils tombent sur les anciennes mines abandonnées par les entreprises, pour l'une ou l'autre raison, et vous allez voir que les moyens qu'ils utilisent, il y a même des mines qui ont été loyées. L'exemple le plus éloquent, c'est l'exemple aujourd'hui de la mine de Lanchi. Lanchi, c'était un projet tenu à l'époque par une firme canadienne, First Quantum. On a ravi cette mine après la révisitation des contrats miniers. On a octroyé cette mine à un autre opérateur. Et l'opérateur n'a pas pu développer un projet minier. La mine a été noyée. Donc, des remblais qu'on exploite aujourd'hui, ce sont ces remblais-là qui servaient de moyens de survie pour les autochtones de Lanchi. Or, ces remblais-là, les Chinois, les Libanais sont venus sous les regards, en complicité avec toutes les autorités qui assistent à cette exploitation systématique, et des creuseurs artisanaux ne savent pas là où ils doivent aller exploiter. Et les zones d'exploitation artisanale, si vous allez au cadastre minier, combien de fois, que ce soit au cadastre minier, que ce soit à la cellule technique de planification minière, que ce soit au SAIMAP, quel est ce service qui a mené des recherches, qui a mené une exploration pour constater qu'il y a une zone suffisamment minéralisée où l'on devrait relocaliser et où localiser les creuseurs artisanaux? Ce travail n'a jamais été fait. Et quand on les cherche, et parfois, des mines, même dans les filières des minerais stanifères, la wolframite, la cassiterite et les coltans, dans l'est du pays, le problème est pareil. À Walikale, par exemple, lorsqu'on avait chassé les creuseurs artisanaux qui occupaient la mine de Kalaïboing à l'époque, la mine de Bifié plutôt, et vous avez vu qu'il y a eu des tensions parce qu'on les a amenés dans une zone qui n'était pas suffisamment minéralisée, et l'opérateur qui a acquis des carrés miniers et des titres n'a pas exploité, la mine n'a pas créé d'emploi, et les creuseurs avaient toujours tendance à revenir. Donc le problème est un peu plus global qu'on le croit. Je crois que ceux qui exigent, la présence du ministre sur les lieux, ils n'ont pas tort. Mais moi, je leur dis tout simplement que le ministre, il n'ignore pas ce qui se passe. Il a été ministre provincial, il a géré l'artisanat. Tout ce qui se passe là à Kambove, dans les Katanga. Mais Kambove, c'est une ancienne mine qui appartenait à la Gécamine. Dès lors que la Gécamine n'était plus opérationnelle, et pour que les gens trouvent des moyens de survie, ils se sont déversés dans cette activité. Et dans toutes les provinces, Kassai également avec les diamants, c'est aussi pareil. Vous avez des gens aussi qui obtiennent des chaînes de concession des carrés miniers. Vous avez des exploités, par exemple, qui viennent et qui obtiennent des titres miniers, mais qui vont spéculer sur les principales boursiers et aucun investissement sérieux. Alors, cela prive l'État d'une manne importante de ressources financières parce qu'on gèle des concessions. Et quand on gèle des concessions, en délocalisant les creuseurs artisanaux, chasser les naturels reviennent au galop, ils n'ont pas d'emploi, ils n'ont pas de moyens de survie, donc ils sont obligés de revenir sur ces sites. Et avec tous les problèmes que nous connaissons, parce qu'ils n'ont pas d'outils appropriés, ces drames, éboulement des terres, il y a même des épidémies, aussi des conditions hygiéniques qui ne sont pas respectées dans toutes ces mines. Donc il y a énormément de problèmes dans toutes les mines du Congo d'exploitation artisanale.
Merci Gabi Kouba. Les auditeurs continuent à envoyer leurs réactions. Anaclé Mutombo depuis Kasumbalesa dans le Haut-Katanga, c'est par manque d'une bonne politique du gouvernement d'encadrement de la jeunesse et des créations d'emplois que ces paisibles citoyens périssent sous l'œil impuissant de l'État. Paix à leurs âmes, Josué Kakoulé. Les éboulements qui font jusqu'à 50 morts, ça signifie qu'il y a un risque qui a été négligé. Ce qui fâche, c'est que ce genre de drame se répète sans que soient arrêtées des mesures pour y mettre fin. L'État ne devrait pas seulement s'occuper à faire payer les taxes, ignorant les risques que courent les exploitants. Le ministère des tutelles doit bien jouer le rôle des régulateurs. Hippolyte Lubangui, depuis l'Omamine, de faits sont à la base de cette situation, le manque d'outils de protection pour exploiter sans risque comme dans d'autres pays et le manque d'emplois sérieux qui pousse les citoyens congolais à se rechercher partout pour vivre les grands diplômes renfermés dans des valises. Tout ceci sous les regards impuissants du gouvernement central. Paix à leurs âmes. Monsieur le ministre, nous tendons vers la fin, nous sommes presque à la fin de notre émission. Quel message vous adressez à cette population de Kamituga qui se sent un peu abandonnée, délaissée par le gouvernement?
Non, c'est un message de compassion au nom de notre gouvernement. Le chef de l'État y a fait ce même message, il est préoccupé, notamment le Premier ministre. Et nous présentons aussi, encore une fois, nos condoléances aux familles éprouvées. Et nous disons aussi que nous sommes en train de t'apprêter afin de pouvoir aller sur place pour les consoler, les assister et intervenir sur le plan humanitaire. Mais on a oublié de dire que parfois la faute aussi est partagée. Hein. Même quand les hommes existent, les personnes elles-mêmes ont toujours tendance à pouvoir les outrepasser. Pourquoi pas te donner un peu d'argent pour ne pas les appliquer. C'est pas une question de culture aussi, on doit éduquer tout le monde. Mais nous, en tant que gouvernement, nous sommes là pour prendre nos responsabilités. On ne peut pas se dérober, on acquiesce, mais on doit faire des efforts pour améliorer et éviter que ce genre de choses arrivent si souvent dans notre pays.
Merci, monsieur le ministre Faustin Katanga, votre conclusion.
Ma conclusion, madame, d'abord, merci pour avoir associé à ce débat et je reste disponible pour toujours éclairer la lanterne de la population et d'interpeller les autorités. Je voulais insister sur un point qu'a évoqué notre co-débatteur, l'expert en matière minière. C'est par rapport aux arrivées des expatriés. Madame, dans le territoire de Mwenga, c'est la vache laitière. Il y a des Chinois qui sont en train d'exploiter l'or abusivement, messieurs, bafouant toutes les normes environnementales et dans la rivière Oulindi, dans la rivière donc je vous dis du côté de quoi, il y a la compagnie qu'on appelle Blonde Mining, il y a la compagnie qu'on appelle Regal Mining. Toutes ces compagnies sont dans la partie sud, donc à partir de qui vous descendez. Il y a une partie qui sont dans le Baramukika, les autres sont vers le Bas-Congo, les autres sont à Mbelekelo, et tout ça, ils sont en train d'emmagasiner de l'or qui part. Ça compte les parties, madame. Et puis, nous, les gouvernants vont nous dire que le budget n'est pas là, n'est pas mobilisé, ils ne savent pas mobiliser. Mais tout cet argent, ce sont de l'or qui partent, madame. Nous avons des preuves, nous avons des collègues qui ont déjà eu à faire des sens sur le terrain.
C'est ça qu'attend les conclure.
Les expatriés qui sont là-bas, qui font la loi, et personne ne leur inquiète, les gouvernants ne leur disent rien. Est-ce qu'ils sont complices ou pas? Qu'ils nous disent. Par rapport à l'incident, nous continuons à tendre la main à notre gouvernement. Que le gouvernement vienne assister d'abord les victimes, mais que le gouvernement réglemente ces secteurs. Mais nous savons très bien que le pays est vit de minerais. Mais la contrepartie,
Faustin Katanga,
qu'on modernise, qu'on amène une société qui va embaucher les gens et que la vie change de la population.
Merci.
C'est ça notre
merci, Faustin Katanga. Gabi Kouba, brève conclusion.
Ah oui, je dis, tous ceux qui se posent la question pourquoi le secteur minier ne contribue-t-il pas au développement, maintenant ils ont la réponse. Tant que la machine et les désordres continueront à régner dans les secteurs, il n'y aura rien. Et tant que l'État n'aura pas assumé sa pleine responsabilité, le secteur minier ne sera pas le moteur de croissance, mais bien au contraire, il sera une source de malédiction pour le peuple congolais. Pour mettre un terme à cette anarchie ou à ce chaos, il faut réellement réinventer l'autorité de l'État. Parce que là où l'État existe, que vous soyez expatrié, que vous soyez fonctionnaire de l'État, que vous soyez creuseur national, tout le monde est appelé à respecter la loi. Sinon, on aura tant révisé les codes miniers pour dire que le secteur minier ne profite pas assez à l'État congolais, ça sera une démarche saine. Donc le problème passe par l'autorité de l'État. Donc il faut un rétablissement total de l'autorité de l'État et placer des gens qu'il faut là où il faut.
Merci.
À la direction des mines. S'il vous plaît, madame, je termine par là. À la direction des mines, tout comme dans d'autres services qui opèrent sur les lieux, vous avez peu de personnes qualifiées. Il est inadmissible que dans un site minier, que vous n'ayez que des juristes, des sociologues et des philosophes, et vous n'avez aucun ingénieur des mines, aucun géologue. Alors, pour quel résultat, vous pouvez vous attendre à quel résultat lorsque vous avez des mains d'une experte qui gère le secteur.
Merci. Merci Gabi Kouba
plutôt.
Dialogue entre Congolais, c'est fini pour ce soir. Merci à toute l'équipe qui m'a aidé à préparer cette émission. Guy Maté, Dona Madima sous la supervision d'Axel Goncho. Merci à Polydor Basunga qui était à la prise de son. Présentation et coordination, Kéline Kouté. Vous pouvez retrouver cette émission sur notre site internet www.radiookapi.net. Bonne suite de programme sur la fréquence de la paix.